Bonjour à tous et à toutes.
À toutes et à tous. Il faut très déformer, changer. Il est bientôt 11h. J'aimerais savoir, je ne vais pas aller jusqu'au-delà de 25 minutes, au pire 30. Est-ce qu'on va former des groupes? Ça ne sera pas long, mais c'est comme si ça complète la partie du partage. Si ce n'est pas possible, peut-être que j'inclurai la partie du partage avec le message. Je ne sais pas ce que vous pensez. Si on va vers jusqu'à 11h45, ça vous dirait? Ou 50? Ok. Alors, je me réjouis de partager ce moment de culte avec vous. Comme on l'a dit, je vais parler du Dieu de grâce. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous apporte, parce que le fait d'être là tous, c'est que vous êtes témoin de cette grâce. J'ai voulu parler de cette facette de Dieu ou de ce thème qui est la grâce de Dieu pour d'abord pour moi, parce que ça reste comme ça. Mais je me suis dit, il faut que je travaille dessus comme ça, je creuse et je vais voir vraiment quand on parlait de la grâce de Dieu, cela veut dire quoi pour moi, ça représente quoi. Alors, je vais vous partager ce que j'ai pu découvrir par rapport à cette facette de Dieu. Et pour commencer, je dirais que le thème ou le terme grâce divine, c'est aussi vaste et c'est complexe. Je pense que je vais en parler, juste insister sur une facette qui me paraît plus fondamentale par rapport à d'autres formes de grâce divine. Alors, pour commencer, je dirais que tout simplement, toute grâce divine est bienfaisante, non seulement pour nous les êtres humains, mais aussi pour le reste de la création. Je ne sais pas si vous comprenez, la grâce, tout simplement, elle est bienfaisante pour nous les humains, mais aussi, elle est aussi par rapport au reste de la création. Ça, c'est une partie de la grâce en général. Mais il y a aussi une grâce dont je vais parler aujourd'hui. Je trouve que c'est une grâce fondamentale ou une grâce par excellence. Par rapport à la première que je viens d'évoquer, disons par exemple que Dieu prend soin de nous, il y prend aussi soin de toute la création, c'est la grâce. Mais cette grâce, pour moi, c'est comme si Dieu assume son rôle d'un Dieu créateur. Elle nous fait grâce, elle fait grâce à toute la création parce que nous sommes ces êtres et il en prend soin. Dont j'aimerais parler avec vous, que je trouve aussi fondamentale par rapport à notre foi, c'est cette grâce qui est le salut qui nous est donné en Christ. Je pense que toutes les grâces, les autres grâces pour nous, en tout cas les humains, relèvent de cette grâce. C'est cette grâce qui est, je dirais, qui fait référence à une remise totale de la peine que nous méritions parce que nous étions ou nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous a fait cette grâce, ça que ça soit vraiment et mérite. Alors, le texte de référence ou le texte sur lequel je vais m'appuyer, c'est l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 au 17. Et je pense que le verset 16, c'est un verset que tous les chrétiens connaissent par cœur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et puis vous me direz peut-être que dans ce verset, il n'y a pas le mot grâce. Je vais lire, j'ai choisi parler de ce verset, mais en complément, j'ai rajouté aussi le verset 17, je vais lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils l'unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Car, donc c'est le verset 17, car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On va y revenir pour dire en quoi, dans ces deux versets, on peut y trouver le sens de la grâce divine. La grâce que je dirais est la grâce par excellence, pour nous, en tout cas, les êtres humains. Alors, avant de commencer, je situerai ces deux versets dans tout le trois chapitres donc de l'évangile de Jean pour comprendre en quoi consiste. Donc, c'était ce bout de passage que j'ai pris pour vous parler de la grâce de Dieu. Ces deux versets, donc 16 et 17, s'inscrivent dans le chapitre 3, mais surtout les versets 13 au 23. Donc, il est question de l'entretien entre Jésus et Nicodème. Je pense que cette histoire, vous la connaissez déjà. Et puis, Nicodème, dans cette histoire, on va aussi y revenir, comprendre pourquoi l'auteur de ce passage il a choisi Nicodème. Il s'agit d'un juif pharisien qui était l'un des notables juifs. Ça, on peut le trouver dans le même chapitre, au verset 1. Je n'ai pas besoin de citer à chaque fois les versets où ça se trouve, mais juste pour contextualiser le passage, pour que ça éclairisse le sens de la grâce. Comme je viens de le dire, donc le thème central de l'entretien entre Jésus et Nicodème, c'était la nécessité de la nouvelle naissance. Nicodème, dans cet entretien, il a de la peine à comprendre ce que cela signifie, le fait de naître de nouveau. À partir du verset 5, donc jusqu'au verset 15 de ce passage, donc dans lequel s'inscrit le passage qu'on va étudier, Luther reprend et développe des questions, quelques éléments sur oui, la notion de j'utiliserai le mot christologique ou sotériologique, donc les termes qui met Jésus au centre du phénomène et du salut. Je pense que je dirais comme ça. Et puis pour éclaircir son dos, il est question dans cet entretien. Donc au verset 5, on dit, voilà, c'est Jésus qui parle avec Nicodème. Jésus lui dit, nul, s'il n'en est, donc voilà, j'ai pas pris tout le verset, mais je parle de ce bout où il est écrit, nul, s'il n'en est d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est peut-être probablement question du baptême et tout ce que ça représentait à l'époque. Et puis, le verset 6, donc c'est avant ces deux versets dont je vous ai parlé, le verset 6, il est dit, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Le verset 7, Jésus dit à Nicodème, Nicodème, il est... Dans l'entretien, il est tout seul, mais Jésus, quand il s'adresse à lui, lui dit, il vous faut naître de nouveau. On va voir pourquoi il a utilisé ce vous au lieu de toi. Est-ce que ça représente? Au verset 8, il est dit, le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il quiconque est né de l'esprit. Alors, les deux versets qui précèdent notre passage, donc les versets 15, plutôt 14 au 15, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé en fait que quiconque croit et en lui la vie éternelle. Alors, on va revenir sur nos deux versets. Comme je vous ai dit, on ne trouve pas aucun mot qui parle de la grâce de Dieu. Mais je dirais que ces deux versets inscrits dans ce développement donc, que nous venons de voir donc, dans tout l'entretien entre Jésus et Nicodème, donc ces deux versets qui parlent dont la nouvelle naissance constitue, donc les versets 16 et 17 que nous avons lus, il constitue pour moi un socle pour la compréhension du Dieu de grâce. Comme je l'ai dit tout au début, cette grâce qui est le salut par Jésus nous a été. Dieu nous a. Il a remis la peine que nous méritions en tant que pécheurs. Je pense que pour comprendre cette grâce à partir de ces versets, on dirait que la grâce, une telle grâce, ne relève de rien d'autre que de l'amour inconditionnel de Dieu. Et puis, Jean aussi, dans son évangile, avant même le chapitre 3, je suis désolée, j'ai quelque chose qui me gratte. Là, je dois boire. Donc, j'allais dire que, bien que le terme grâce ne soit pas mentionné dans Jean 3, on peut trouver cette notion de la grâce dans le premier chapitre de cet évangile, dans le chapitre 3 et le prolongement. Donc, selon l'évangéliste Jean, on va lire ça un tout petit peu. La plénitude de la grâce divine a été manifestée et accordée dans la personne de Jésus. Je vais vous lire ce qui est écrit donc dans l'évangile de Jean, juste avant le chapitre 3 que nous avons abordé. Donc c'est Jean 1, les versets 14 et les versets 16 et 17. Je vous lis juste vite fait. Il est écrit: et le Verbe s'est fait chair et il habite parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que qui est c'est ce qui est écrit. Moi, j'ai utilisé la version Taub. Des fois, c'est pas facile à comprendre, mais quand je lis, c'est à partir des traductions. On essaie d'être cohérent avec la traduction grecque, mais des fois, quand on lit en français, c'est un peu difficile à comprendre. Je reprends, parce que moi aussi, quand je lis, ça me paraît un peu compliqué, mais je reprends, j'ai choisi ça exprès. Donc, et le Verbe s'est fait chair, et il habite parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Cette grâce, il la tient du Père. Donc, de sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce, sur la loi, si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je pense que ça éclaire un peu les deux versets que nous venons de lire. Donc, vous voyez que même si dans les versets choisis, Jean ne parle pas de la grâce, il a été question juste tout au début de son évangile. Et puis, moi, j'ai choisi ces deux versets parce que je pense que le sens de la grâce, les mots qui pourraient exprimer ou expliquer ce thème de grâce qui est le salut qui nous a été fait, il y a les mots nécessaires dans ces deux versets pour comprendre ce que c'est la grâce de Dieu. Parce que je les avais déjà soulignés, il y a le mot aimer, car Dieu a tant aimé le monde. Ce mot aimer, ce verbe aimer, s'il est exclu du thème de la grâce, pour moi, ça serait difficile à comprendre. Mais vraiment, cette grâce relève de l'amour, l'amour inconditionnel de Dieu vis-à-vis de nous, les êtres humains. Ce qui distingue cette grâce à toutes les autres grâces vis-à-vis de nous, en tant que les êtres humains, mais aussi le reste de la création. Parce que je trouve pas le mot, mais derrière de ce thème de la grâce qui représente le salut, il y a vraiment cette idée, c'est ce que je voulais vraiment souligner, c'est cette remise du jugement que nous méritions en tant que pécheurs. Je continue pour avancer. Je dirais que sur ce thème de la grâce, en tout cas cette grâce qui est le salut, En termes juridiques, la grâce désigne le droit d'annuler ou de modifier une peine. Ce droit est en général confié par la justice à la plus haute instance politique du pays. De même, Dieu en envoya son Fils, il a suspendu le jugement qui était réservé à l'être humain, pécheur, pour qui Jésus est venu sauver. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ces deux versets que nous avons lus? Donc, notre passage est pour vous parler de la grâce divine. Je dirais que le don de Jésus pour le salut du monde est une grâce au plus haut point, ou une grâce par excellence, comme je l'ai dit tout au début. Un deuxième point qui m'a paru aussi intéressant par rapport à ce terme de la grâce, c'est que cette grâce a pour fonction de recréer, redresser et restaurer tout ce que le péché a altéré dans l'humain et autour de lui, donc dans le monde. Parce que tout le malheur qu'on a aujourd'hui ou dans le passé, c'est lié au péché. Ainsi, la nouvelle naissance qui s'opère par le biais de la foi en Jésus peut être comprise comme la nouvelle création, donc le royaume de Dieu parmi nous. Le fait qu'on a dit oui à cet appel qui nous a été adressé, de se tourner vers Dieu, cela fait de nous, comme l'a dit l'apôtre Paul, je pense que c'est en 2 Corinthiens 5, 17. Cela a fait de nous, Jean le dit aussi, cela a fait de nous de nouvelles créatures ou enfants de Dieu. Dans l'entretien de Jésus avec Nicodème, trois éléments me semblent intéressants pour comprendre la portée de la grâce divine ou la grâce de Dieu. Pour le premier élément que j'ai trouvé important, déjà, il est question de Nicodème. Et les notables juifs, même s'ils ne sont pas présents au moment de l'entretien, où il est dit, il vous faut naître d'en haut. C'est en Jean 3, le verset 7. Alors, ce que je peux en dire, c'est que Nicodème et son cercle des notables juifs sont supposés connaître Dieu et ses bienfaits pour son peuple. On peut parler par exemple l'Exode, donc le fait que Dieu a sauvé son peuple par la puissance et en traversant la mer, donc il les a sortis du pays d'Égypte. Ça aussi, c'est vraiment une grâce. Ils connaissent les bienfaits de Dieu vis-à-vis d'eux. Dieu a conclu l'alliance avec son peuple. Ça aussi, c'est bien fait vraiment pour le peuple juif. Oui, ça représente quelque chose quand même. Il y a aussi le don du pays et d'autres grâces dont il jouissait. Le fait que l'évangéliste Jean a choisi Nicodème et son cercle, il veut montrer qu'ils savent, ils connaissent Dieu. Ils jouissent beaucoup de lui, mais cela n'est pas suffisant. Il faut qu'ils découvrent qu'il y a aussi une grâce par excellence qu'ils doivent aussi connaître pour bénéficier de l'amour total de Dieu. J'ai dit que, voilà, en plus de tout ce qu'ils ont reçu, être sauvés ou être sauvés de Pharaon et son armée, conclure l'alliance avec Dieu, être dans le pays. Oui, il y a rien qui les reprochait par rapport à l'observance de la loi de Moïse dans ce chapitre que nous avons lu, ou dans tout ce que j'ai évoqué, il n'y a rien qui est reproché à Nicodème. Il essaie d'être fidèle par rapport à ce qu'il savait déjà de Dieu. Mais comme je viens de vous le dire, il leur manque une chose, selon l'évangéliste. La chose est plus importante encore. La connaissance de l'immensité de l'amour de Dieu. Je dirais que cet amour, d'après ce que nous avons lu, Cet amour va au-delà de tout ce que le peuple hébreu ou le peuple juif connaissait déjà comme provenant de Dieu. Ainsi, il y a recours à la figure de Nicodème et des notables juifs. Jean cherche à montrer qu'il y a une autre sorte de libération selon laquelle toute l'humanité peut être délivrée du péché. Oui, le peuple juif a été délivré de ses ennemis, mais il y a aussi la question du péché que la loi ne peut pas. La loi ne peut pas sauver du péché. Il ne fait qu'à montrer le péché, à montrer ce qu'il faut faire, mais la loi ne pouvait pas les délivrer du péché. C'était important pour Jésus, pour Jean aussi qui a écrit son message et pour montrer que le peuple juif que représentait Nicodème avait besoin aussi de connaître qui était Jésus pour être libéré du péché. Ça, pour moi, c'est une grâce par excellence par rapport à tout ce que le peuple juif pouvait recevoir de Dieu. Si on reçoit de tout, mais qu'on n'a pas la vie éternelle, je pense que c'est Dieu, il sait ce qui est mieux pour nous. Il savait ce qui était mieux pour son peuple. En plus de tout ce qu'il avait donné, il voyait qu'il était nécessaire aussi qu'il connaisse Jésus en tant que sauveur. Cette emprise du péché, voilà, et la loi ne pouvait pas, n'était pas capable de briser cette, oui, de vaincre cette emprise du péché qui est ancrée dans l'homme ou dans l'être humain. Et un deuxième élément qui m'a paru aussi intéressant ou important à comprendre, pour comprendre la grâce de Dieu, il s'agit de la comparaison entre le souffle du vent et quiconque qui est né de l'esprit. Ce n'est pas dans les deux versets que j'ai choisis, mais ça fait partie de l'entretien entre Jésus et Nicodème, au verset 8. Je dirais que cette sémantique du vent peut suggérer que l'on peut sentir ou observer l'agir de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, mais que cette puissance échappe totalement au contrôle et l'entendement de l'être humain. De ce point de vue, inscrit dans cet agir divin qui nous dépasse, la grâce de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, d'où la limite humaine de mesurer le champ d'action divine dans la vie de chacun de ses créatures. On peut prétendre avoir une connaissance parfaite de Dieu parce que Nicodème, il ne comprenait pas ce que Jésus lui disait dans la trentième, parce qu'il pensait qu'il était bien avec tout ce qu'il faisait, mais il lui manquait quelque chose et je ne vais pas en parler, mais dans les versets que j'ai essayé d'aborder, il y a cet manque de connaissance qui est reproché à Nicodème et son groupe pour être sauvés ou découvrir la grâce de Dieu ou son amour, si vous voulez. Donc, je disais qu'on ne peut pas prétendre avoir une connaissance parfaite de Dieu ou avoir atteint un degré assez élevé pour dire qu'on n'a plus besoin d'apprendre de Dieu ni être guidé par lui. Car notre Dieu, en plus d'être un Dieu de grâce, il est aussi ce Dieu qui nous surprend. Ça, je pense que ça sera Stéphane qui va en parler. En Jérémie 33:3, je pense que si vous lisez, vous saurez en quoi Dieu peut nous surprendre. Mais il y a d'autres versets qui en parlent aussi. Mais ça ne fait pas partie de notre thème. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour jouir de la grâce de Dieu, il faut aussi le connaître. Alors, troisième et le dernier élément qui m'a parlé par rapport à ce thème de la grâce, ou Dieu qui fait grâce, c'est le fait que Jean, il a mis le monde quand même comme destinataire de la grâce ou du salut. C'est un peu difficile à comprendre. Peut-être que le monde peut représenter tous les humains, mais ça n'exclut pas que aussi toute la création serait concernée par la notion de la grâce qui représente le salut. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, le malheur de notre monde, c'est toujours dû au péché de l'être humain. Donc, j'en parlais brièvement, comme ça on s'approche de la fin. C'est le seul passage, en fait, de l'évangile de Jean qui présente le monde comme destinataire de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ici compris comme illimité, c'est-à-dire universel. Donc, il n'y a pas de condition préalable, pas de discrimination par rapport à cette grâce, même si, du point de vue du salut, directement, ça nous concerne en tant que les humains. Cet amour est créatif. Donc, au verset 16, cet amour créé, comme je l'ai dit, parce que le don de Jésus au monde a pour finalité la vie ou le salut. Celui-ci est une victoire sur le péché et sur la mort. Donc, ça crée ou ça donne une nouvelle création. À cette échelle où la grâce de Dieu surabonde, on constate les écarts entre, ou on réalise les écarts entre la grâce divine et la grâce en termes de droit que j'ai évoqué tout au début. Car la grâce divine relève de son amour inconditionnel et elle est accordée au monde entier. Tandis que, en termes de droit, vous le savez, c'était à l'époque, je pense que ça n'existait plus. Où la grâce est accordée à quelqu'un qui a, voilà, qui a été puni parce qu'il est malfaiteur. Cette grâce, elle est partielle souvent, ou même si elle est totale, nous change cette personne comme la grâce de Dieu pourrait la toucher cette personne. C'est pourquoi je dis que cette grâce de Dieu, la grâce en termes de droit, on peut la jouir, mais on reste pécheur quand même. Même si ça, c'est une libération du point de vue du corps ou du point de vue, on est libre, on est, oui, mais quand même, on reste pécheur en termes de la grâce divine, si j'ose dire. Et cette grâce aussi, en termes de droit, elle est rare. Et quand elle est donnée, elle est adressée juste à une personne. Et donc voilà, elle est restée quand même, cette personne est restée un être pécheur. Alors que le monde est plutôt la grâce de Dieu, elle est libérée du péché, elle est relève de l'amour, et puis elle est adressée à tout l'univers. Donc elle fait pas l'exception pour dire l'immensité de cette grâce de Dieu par rapport à la grâce en termes de droit ou à la grâce du point de vue humain. J'arrive à la conclusion. Finalement, on peut dire que toutes les grâces divines contribuent au bien-être de l'humanité, sans oublier le reste de la création. Toutefois, parmi toutes ces grâces, celle du salut est fondamentale. Parce qu'en Matthieu, par exemple, chapitre 6, le verset 33, Jésus, il dit ou il est écrit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Oui, je pense et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Cette grâce qui est le salut, elle est fondamentale pour nous. On peut jouir d'autres grâces, mais ces grâces, une fois qu'on n'a pas le salut, je pense que c'est grâce à ça. Ça reste artificiel par rapport à nos besoins fondamentaux. D'après tout ce que le salut ou d'après ce que le fait de croire en Jésus, de croire en Dieu et de se détourner du péché, ça change tout dans nos vies. Et puis d'autres grâces, comme je l'ai dit, elles sont bienfaisantes, mais elles viennent comme plénitude par rapport à cette grâce qui est pour moi qui fonde notre vie nouvelle. C'est pourquoi la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ surpasse toute autre grâce dans la mesure où le don de Jésus explicite le projet cher à Dieu de redonner un sens à l'existence humaine dans son monde. Alors, je dirais que nous, ici présents, étant bénéficiaires de cette grâce, Dieu nous a mandatés pour contribuer à l'élargissement de son royaume dans le monde. Alors, comme prière, je dirais que par son esprit, nous puissions discerner quelle est sa volonté afin que nous puissions participer à cette œuvre de la fantôme pour son royaume. Amen. Pour les groupes, la question que j'ai donnée, ce n'est pas une question à chercher forcément à répondre, c'est la continuité de ce que nous venons de voir par rapport à cette facette de Dieu, de grâce. C'est une question, mais qui veut qu'une fois on se la pose, ça nous ramène à réfléchir, à méditer et puis à prier. Et puis, je ne vais pas projeter ça. J'ai écrit cette question sur des bouts de papier dans les groupes et vous allez partir avec. Et puis, si vous voulez, on pourrait prier à la fin de ce partage avec Éphésiens, je pense, ou avec Éphésiens, si vous voulez, le chapitre 2, versets 7 et 8. Il y a aussi, je ne sais pas si vous allez retenir ça, mais ce n'est pas important. Pour moi, ça conclut bien ce moment de partage avec la question qui est préparée. Si jamais si vous oubliez, ou bien je pourrais. Est-ce que, Daniel, si tu pourrais, s'il te plaît, laisser ce verset. Je ne sais pas comment tu pourrais faire si je ne te l'ai pas donné avant. Ou bien vous êtes capable de retenir quand même Éphésiens 2, versets 7 et 8. Je pense que vous allez vous en souvenir. Alors, je m'arrête là. Il est déjà 11h30 et je pense que le temps qui nous reste, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et puis, on priera juste à la fin des groupes et c'est ça le but.